Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes Extra. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Moi, je suis fâché encore contre toi, là.
Que j'ai fait?
C'est toi qui as fait en sorte qu'on ait écouté WrestleMania 9.
Non.
Oui.
Non, je vais te donner le nom du vagabond.
Donne-moi son nom.
Il nous a dit que ce serait une bonne idée de faire ça là-dessus.
N'avait pas de bonne idée.
Je l'ai effacé. Ah, je l'ai effacé.
Bon, ben, il méritait pas qu'on nomme... Yo! OK, Rentrons dedans. WrestleMania 9.
Oui.
4 avril 1993.
Tu nous dis pas où nous écouter, non?
Ouais, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cube, Stitcher, laissez-nous faire Star Frog Splash, Nevada Paradise au Caesars Palace.
C'est Las Vegas.
Ouais.
C'est à Las Vegas le 4 avril 93.
16 891 personnes dans l'aréna ou dans le stade ou dans le l'hôtel.
Ben, ils ont conçu un genre de stade là, sous forme de forum romain. Là, si tu veux.
C'est le pay-per-view qui était dehors. C'est la première fois que j'écoutais ce pay-per-view-là.
OK. C'était le premier WrestleMania complètement à l'extérieur.
Ouais.
Et il n'y en a pas eu un autre avant 2008 après WrestleMania 24 à Orlando.
Ah boy.
Hey, c'était le thème du WrestleMania, c'était le World's Biggest Toga Party.
Ouais.
Les toges romaines.
Ouais.
Parce que tout le monde était habillé avec une
toge
romaine.
Il était obligé dès qu'il était à télévision. Ben là j'écoutais aussi le podcast de JR là avec je sais pas si tu as eu le temps de l'écouter.
Non.
OK, ben je vais pouvoir amener certains trucs là avec Conrad Thompson.
Mais JR était pas obligé.
Oui, il a dit qu'il était obligé.
Ben mais c'est pas ça qu'il a dit dans son livre.
Ben, sous le podcast, il a dit dès qu'on était à la télévision, caméraman, n'importe qui était obligé, puis les gens, ils niaisaient parce qu'il portait le toga à son premier WrestleMania, puis il a dit « I don't care, it's my first WrestleMania », puis c'est ça qu'il a dit sous le podcast.
Ben, dans son livre, JR, parce que j'ai checké les pages du livre où il parlait de ça, dans son livre, JR, il dit « Vince McMahon m'a vraiment donné le choix d'être habillé en habit ou avec la toge », et j'ai dit « Non, j'étais un gars d'équipe, ça, il voulait montrer qu'il était un tu sais, qu'il était pour suivre l'idée de la compagnie ». Donc, mais Vince, à deux reprises, dans son livre, il dit qu'il lui a offert...
Sur le pad, il dit autre chose.
Ben, parce que c'était... on vous parle de JR, là, c'était les débuts de Jim Ross pour la compagnie. La première fois qu'on le voit à la télévision pour la WWF, c'était à WrestleMania 9. C'était Bruce Prichard qui lui avait eu son entrevue avec Vince McMahon. C'est un peu drôle que 30 ans plus tard, ou tu sais quasiment 27 ans plus tard, ce soit encore Bruce Prichard
qui
soit quasiment à la tête de la compagnie avec Vince. Gorilla Monsoon avait fait les 8 premier WrestleMania, mais là, sa santé s'était détériorée et il était juste là
pour présenter
le maître de cérémonie au tout début. Exactement.
Donc, le Dark Match...
Ben, attends, JR, Randy Savage et Bobby Heenan sont dans
Je le rentrais après, ça c'est Dark Match.
Dans le boot. Ah, excuse-moi.
So, Dark Match, Tito Santana, Bob Papachango.
As-tu écouté le match?
Man, tu malade, toi?
Ah, OK,
sauf que j'ai écouté des extraits en ligne où JR...
Oui.
Ils se faisaient dire... Dans le fond, les gars, ils ajustaient leur broadcasting.
Oui. Oui, parce que le match a été mis récemment dans les Hidden Gems du WWE Network.
Ouais.
Et puis, c'est ça, il n'y avait pas eu de commentaires à ce moment-là.
J'ai vu un petit montage vite sur YouTube. OK, l'intro, Gorilla Monsoon, c'était malade. Juste le voir là avec son toga, là, à quel point ils ont dû mettre cette affaire-là sur mesure parce que le patinet est grand.
Et gros.
JR est costaud. JR, c'était son premier WrestleMania.
Ouais.
Finkus Maximus J-Pop.
C'était Howard Finkel.
Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, moi, je m'enligne pour un bon WrestleMania. » Ils ont poussé ça loin, l'affaire de César et Cléopâtre. Cléopâtre était sur un éléphant, César était là aussi. L'entrée de Macho Man était spectaculaire. Là.
Oui.
Et l'entrée de Bobby Heenan à l'envers sur le chameau, juste ça, là, j'étais comme, OK, je vais avoir un bon WrestleMania. Donc, l'équipe, c'était Macho, JR et puis Bobby DeBrainian.
JR disait d'ailleurs dans son livre que Savage était pas facile à travailler avec, mais que Heenan, il savait déjà ce que Heenan pouvait faire. Ouais. Quand il est sorti de ce show-là, il a dit Bobby Heenan est le total package de la lutte professionnelle parce qu'il pouvait lutter, il pouvait être gérant, il pouvait parler, il pouvait être commentateur. Il a adoré Bobby Heenan.
Ouais, il a dit la même chose sur le pod.
Et voilà.
Shawn Michaels accompagné.
Oh, attends. Petite information.
Ouais, vas-y.
Bam Bam Bigelow contre Kamala devait avoir lieu. Tu pourrais ajouter du work rate. Okay. Et ça a été annulé avant que le show commence.
Okay.
Parce que quand ils ont timé le show, ils ont réalisé qu'il n'y avait pas assez de temps. Donc, ils ont enlevé ce match-là de galère. Ce match-là n'a pas eu lieu.
So,
ça aurait aidé
Non,
le final.
Non. Shawn Michaels accompagné par Luna Vachon face à Tatanka accompagné par Sensational Cherry.
Ouais.
Le look de Shawn Michaels était à 100. Ça, c'est le Shawn Michaels avec qui je suis tombé en amour. Là.
Avec le blanc, ben, les snaps, là, pis tout. Ouais,
sexy
ouais.
Boy, pretty boy. Homme drag du top rope de Tatanka. Je suis comme, mais pourquoi on voit pas plus ça de nos jours? C'est j'ai vu, pis j'ai fait, ah, les boys devraient le faire. Il me semble que c'est quand même safe. Puis c'est impressionnant à voir. Luna est excellente, Luna. Là.
Ben oui.
Luna, là... Ça fait une couple de fois qu'on l'a sur le show, là, puis à chaque fois, je suis comme heureux de la voir.
Moi, j'ai aimé Bobby Heenan parle que c'était la nièce de Mad Dog Vachon, la fille de Paul the Butcher Vachon. Tu sais, Heenan, il a travaillé avec les Vachons dans la AWA à l'époque. Donc, tu sais, j'étais content qu'il mentionne, tu sais, d'où elle venait. Là. C'était une belle attention que j'ai aimé.
Extrêmement agile Tatanka pour son size. Le kick de Shawn sur le tomahawk de Tatanka là, de la troisième corde, j'ai trouvé ça super
bon. Tu vois, à l'époque, c'était pas encore le Sweet Chin Music.
Non.
Là.
C'est genre juste un kick.
Ouais.
Un match très très long, mais très très long, mais genre vraiment, vraiment fucking long. Un hold-up.
Attends, tu me parles de match long. T'as-tu entendu Bobby Heenan? À un moment donné, il dit il y a quelqu'un, je pense que c'est Jim Ross qui dit quelque chose. Puis, ah oui, il y a un compte de deux, puis un kick-out.
Okay.
Jim Ross, il dit, oh, le match aurait dû se terminer là.
Ouais.
Et Bobby Heenan répond, il dit, le match aurait dû se terminer 30, il y a déjà 30 moves.
C'est bon, ça, c'est
should
bon.
Have been over 30 moves ago.
fucked finish. Pourquoi on ouvre WrestleMania avec un finish que personne comprend? Disqualification de Michaels.
C'était pas une disqualification, c'est ça qui est mélangeant.
Ouais.
Parce que pour que vous compreniez, en fait, c'est que les deux sont... Shawn Michaels est à l'extérieur et l'arbitre compte. Et là, Michaels est pas capable de battre le compte. Fait qu'au lieu de battre le compte, il prend les pieds de l'arbitre puis il l'amène à l'extérieur. Puis là, il rentre dans le ring. Et là, le match continue un peu. Puis là, l'arbitre fait sonner la cloche. Tu penses qu'il s'est fait disqualifier parce qu'il a touché l'arbitre? Ben non, parce que l'arbitre s'était déjà rendu à 10. Fait que c'est tu comprends pas là ce qui s'est passé.
C'est de la marde, là. Un long match de même qui finit sur un finish de marde.
18 minutes 13.
Ouais, moi j'ai donné
match.
1 sur 5.
OK, ben tu vois...
À cause du finish. Le match était long, puis le finish était shit.
Meltzer devait donner 3 étoiles et demie.
Ouais.
Et moi, ça a été mon match préféré en termes de work rate. Ça a été le meilleur match en termes de work rate. Oublie le finish.
Ouais.
En termes de juste de ce qui s'est passé en ligne. Juste aviser quelque chose. Cherry Martel, vous en rappelez sûrement parce qu'elle était avec Shawn Michaels avant, mais dans la feud avec Marty Jannetty, ce qui était arrivé à un moment donné, c'est que Michaels l'avait mis devant le miroir parce que Jannetty voulait frapper Michaels avec un miroir, puis c'est elle qui avait eu le miroir dessus, et c'est pour ça qu'elle était tannée, puis elle a tourné contre Shawn Michaels au Royal Rumble 93, et c'est pour ça que Shawn Michaels avait été chercher Luna, et il y a eu une grosse rivalité après ça entre Luna et Cherry Martel. J'ai eu la chance d'interviewer Luna avant qu'elle décède, et elle me parlait là que elle et Cherry là, tu sais, c'était une grosse rivalité.
Steiner Brothers face aux Head Shrinkers.
Les Head Shrinkers, est-ce que tu sais c'est qui? Samu et Fatu.
Ouais, c'est ça.
Samu, il a lutté ici au Québec dans les années 80. Great Samu, ça a été la dernière rivalité de Dino Bravo. La dernière bonne rivalité de Dino Bravo au Québec. Et puis Fatu, mais tu sais c'est qui Fatu?
Le père à Roman?
Non. Fatu, c'est Rikishi.
Je l'avais même pas reconnu.
Ouais, c'était Rikishi. Et au Québec, il avait lutté sous le nom d'Alofa.
Wow!
Il avait lutté dans les années 86, à peu près. Il avait lutté sous le nom d'Alofa. C'était Afa qui était dans leur coin, l'un des Wild Samoan original. Donc ça, c'était c'était les Head Shrinkers.
C'est la version des Steiners que j'aime le plus. Comment le gars a dit... OK, so il y a un Steiner qui a dit we're gonna make Julius Caesar proud.
Ça doit être Scott qui a dit ça.
J'ai dit, mais pourquoi, man? Rien d'exceptionnel dans le match, à part Scott Steiner qui prend le crazy bump par-dessus la troisième corde puis il a failli mourir, là.
Hey, ben c'est Samu. Samu, il le lance, ouais. Il tombe comme avec, ouais. et il passe, il touche même pas au troisième corde, je pense, puis qu'il passe direct par-dessus.
Ouais, dangereux.
C'était complètement débile.
Ouais. Il y avait quelques high spots, mais sans plus. J'adore la gimmick des Steiners. J'adore la gimmick des gars qui ont la tête dure.
Ouais.
Je trouve que c'est une bonne idée. Victoire des Steiners.
Frankensteiner, ouais. qui était un petit peu moffé. Là. C'était pas le plus solide des Frankensteiner que ouais. j'ai vu sur Samu. 14 minutes 22.
2 sur 5.
Ben, tu vois, Meltzer avait donné 2.5.
Ouais. La promo de Donk. Donk est great. Donk, en tout cas, ce Donk-là était bon.
Ça, c'est le premier. Ça, ouais. c'est l'original. C'est Matt Osborne.
C'est un bon Donk.
Lui, il a pu être Donk après décembre 93. Donc là, on okay. est en avril. Donc ça a été, c'est lui qui était là pour tout.
Oui, Gerard dit dans son podcast que le tiers du roster qui est sur WrestleMania est plus là à la fin
ça,
de l'année.
Ça, c'est drôle. On doit avoir les mêmes sources, moi puis JR, parce que j'ai cette note-là à côté.
Ah, c'est bon.
J'ai cette note-là aussi.
Donk the Clown face à Rush?
Crush.
J'ai manqué un C. Voilà. J'haïs Crush. Je trouve qu'il sert à rien.
C'est Bryan Adams.
Je trouve qu'il servait à rien. Il n'y avait aucun personnage. À part des têtes colorées. Match long.
Mais ça, c'était. Tu sais d'où émanait Crush au début?
Non.
Crush faisait partie des Demolition. C'est le troisième Demolition.
Ben shit, pareil. Le match était long. Shit. Deux dingues à la fin.
Le match n'a pas été long. Il a paru long,
c'est ça.
8 minutes 28. Ouais,
il a paru. Ben, il n'y a rien qui se passait dans le match. Il n'y a rien qui se passait dans le match.
Je comprends.
Puis deux dunks à la fin, j'ai ri au finish. J'ai quand même ri.
T'as un deuxième dunk qui arrive, qui prend un plâtre, puis qui assomme Crush avec ça. Le deuxième dunk.
Je sais pas.
Steve Kern.
Ah, OK.
Steve Kern, tu sais, on en a pas. C'est lui qui avait FCW en Floride. Tu sais, le documentaire d'FCW sur le network.
Ouais.
Okay. Il avait fait Skinner. Skinner? Ouais, il a fait Skinner à la WWE aussi.
Oh non, man.
Ouais.
OK, so.
C'est un Crocodile Hunter, Skinner.
Moi, j'ai mis 2 sur 5.
1.5, Meltzer.
Et moi, j'ai juste ri l'affaire de Dunk. J'étais rendu à une étape où j'avais besoin d'aide dans ce pay-per-view-là.
Mais as-tu vu comment le Dunk. L'original, pas le deuxième, comment il y avait plus de maquillage.
Ouais.
Il parle à la caméra, puis il y a même plus de maquillage.
Moi, j'aime ça, moi.
Mais t'es un clown.
Oui, mais moi, j'aime ça parce qu'il envoyait juste comme des petits spotty maquillage. Mon highlight de toute WrestleMania.
Ouais.
Todd Pittingle, qui fait un sondage à la foule, puis qui dit aux gens, est-ce qu'il y avait vraiment deux doinks ou pas? Il demande à des photographes japonais, et là, les photographes japonais.
Ils comprennent
going
sweet F-O.
Off. Ça, là, j'ai ri à voix haute, là.
T'as-tu vu le même Pettengill plus tard dans le show? Il interview deux fans qui finissent par se chamailler, mais juste avant de les interviewer...
Il interview un kid?
Non, il les a tassés, les enfants.
Il a
carrément, avec sa main, tassé des enfants.
Pettengill était en forme. Il était en forme, ce journée-là. Ça
n'avait aucun bon sens.
OK, so, Razor Ramon face à Bob Backlund, un match qui était court. Bob Backlund n'avait pas perdu à la WWE via pinfall depuis 1977, selon JR encore.
Oui, parce que quand il a perdu la belt...
C'était pas un pinfall.
Ouais. C'est Arnold Carlin qui avait lancé la serviette.
Fait que la fois qu'ils font perdre via pinfall, le match a duré 1 seconde et demie face à Razor Ramon.
3 minutes 45.
OK, 1 seconde et 2 quarts.
C'était le premier WrestleMania de Bob Backlund. C'était son retour, là. Parce que lui, il est parti de la compagnie en 84. Ouais. Fait qu'il a pas connu WrestleMania au début. Puis là, ben, après ça, ça c'était le retour en babyface. Puis il allait devenir Mr. Backlund avec le chicken wing. Puis bon, toute la gimmick heel qu'il y a eu et tout ça. Mais là, c'était pas encore le cas.
Moi, je pense que Vince a donné un reçu cette journée-là. Le Bob Backlund qui rentre sans musique. Je sais que c'est sa gimmick.
Oui, c'était sa gimmick.
Je sais. Mais on dirait que les gens savaient même pas qu'il y avait un match Bob Backlund contre Razor Ramon. Puis après ça...
Petit paquet pour finir le match.
Puis Razor rentre, il c'est la plus grosse star. Là.
Ouais.
Il rentre, il est over as fuck. Puis Bob Backlund rentre avec rien.
Ouais.
Inside Cradle, 1, 2, 3, Macho Man qui dit he beat the wrestler with a wrestling move. J'ai trouvé ça bon, tu sais. J'ai trouvé ça cool, mais il n'y avait pas de build, pas rien.
Les commentateurs étaient bons.
Oui, vraiment.
Tout le long du show.
OK.
Attends, Meltzer a donné.
J'ai mis 1 sur 5.
Ah, ben, je l'aime quand il fait ça. Moins une étoile.
Oui. Hogan et Beefcake, les Mega Maniacs.
Ben, ils pouvaient pas dire Mega Power, c'était déjà Hogan et Savage.
Mega Maniac. Shit. Face à DBSC et RS, Mega Incorporated.
Non, Money Inc.
OK, j'ai écrit. OK, non, Money,
c'est
Inc.
Money Inc. C'est Money leur Inc. Nom
oh, excuse-moi, c'est moi qui ai fait
Irvin R. Chrysler, ouais, ouais, IRS. Ouais. C'est Mike Rotunda,
ouais, le père
qui est le père
de
Bo Dallas et de Bray Wyatt.
Pour les titres par équipe.
Attends, avant que tu rembarques dans le match, ouais, juste donner un peu...
Le backstory.
Le backstory. Bon, dans la vraie vie... Brutus Beefcake a un accident de paravoile en 1990, OK? Il a eu vraiment un bad accident, là. Il a eu 100 pieds de fil, Kev, et 32 vis dans le visage. Tous les os de son visage avaient éclaté. Ils lui ont vraiment complètement refait le visage. Et suite à ça, il est pas revenu lutter tout de suite. Pis c'est là qu'il a fait le barbershop.
Ouais.
Tu sais, le fameux barbershop où Shawn Michaels tourne sur Marty Jannetty. Et là, en février 1993, il revient dans un match contre DiBiase. Et puis, à la fin du match, DiBiase vient pour le frapper avec la valise. Et là, c'est Jimmy Hart qui, à un moment donné, dit « Hey, non, non, là, c'est trop, là. Ça va trop loin, cette affaire-là. » Et ça a été le babyface turn de Jimmy Hart. Fait, c'est pour ça que Jimmy Hart, qui était gérant de Money Inc., s'est en allé gérant de Beefcake et d'Hogan pour le match. Alors, c'était un peu comme le retour de Beefcake, là, à part ce match-là en février.
Avec un masque laid.
93, avec un masque en titanium laid pour vendre la gimmick du fait qu'il y avait un visage fragile. Hulk Hogan, lui. C'était Hulk Hogan, son dernier match avec la compagnie, ça avait été WrestleMania 8. Il avait fait un house show le 19 mars, donc juste un peu avant WrestleMania 9. Puis tu sais pourquoi on l'avait pas vu pendant un an? C'était le scandale des stéroïdes.
Ah oui, oui, oui.
C'était le scandale des stéroïdes. Ouais. C'est là, c'est durant cette année-là qu'il a fait Arsenio Hall, ouais, qui a été mentir en disant qu'il avait jamais pris de stéroïdes et tout ça. Donc, McMahon ne voulait pas l'avoir là, sur le show. Puis là, finalement, il est revenu. Et puis, t'as-tu vu le black eye qu'il y avait?
OK. Premièrement, t'as-tu remis du parcomètre?
Non, j'ai vu tantôt la notice et j'ai oublié de le faire comme à chaque fois que j'oublie de le faire.
Ça, c'est fait.
Donc là, je le fais.
Pendant que je réponds, je vais te lire ce que j'ai écrit. Aïe aïe, Hogan est mega over, la face maganée. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck?
Est-ce que JR en parle sur le podcast?
Oui. Donc, JR... Okay,
dis-moi, j'ai fait des recherches, mais dis-moi ce que JR okay,
so, la question de Conrad, c'était, est-ce que c'était vraiment un accident de skidoo?
Parce que c'est ça que la WWE avait sorti à l'époque.
Ouais. Et
c'était pas de skidoo, c'était de jet ski.
De jet ski. C'est pas la même chose?
Un skidoo, c'est dans la neige. Un jet ski, c'est sur l'eau.
Ah non, non, man, je fais pas ces affaires-là, moi, OK?
Hogan fait pas de skidoo.
OK, so, JR dit que il y avait pas de raison de pas croire que c'était un accident de jet ski. Puis il disait que il voyait pas comment il s'aurait été inventé parce qu'il y avait la rumeur qu'il s'était battu dans un bar puis qu'il avait mangé une volée puis que Hogan ne voulait pas le dire qu'il avait mangé une volée parce que Vince whatever. Fait qu'il dit moi j'ai aucune raison de pas croire que c'est pas ce qui est arrivé.
C'est pas ça qui est arrivé.
Tu laisses aller.
Il a pas mangé une volée dans un bar.
Non, je sais, tu dis jet ski.
Non. Okay. Non, c'est pas ça non plus.
OK.
Il a mangé un coup de poing sur la gueule par Randy Savage.
Ah ouais? Oui, ça aussi. Dans le podcast, il avait dit que ça aussi, c'était une autre des rumeurs à cause du divorce.
Il était séparé et Elizabeth était restée amie avec Hogan et Linda. Et Savage, paranoïaque comme il était, ben à un moment donné, il pensait que les Hogan protégeaient Elizabeth, puis Elizabeth fourrait ailleurs, excusez l'expression, à la place que... Puis là, Savage n'était pas content de ça. Et à un moment donné, ben il en est venu au coup. Savage, là, il était prime, là. Savage, là, dans ses bonnes années au Tennessee, là, il pouvait sortir un morceau s'il en avait besoin. Ouais. Là. Donc là, il a donné une coupe de un ou une coupe, là, je sais pas, là, mais assez pour que... Hey, le dedans de l'œil d'Hogan était noir. Là. Quand il fait sa promo à la fin, là, tu le vois comme il faut, c'est débile.
Ouais, donc bon.
Donc ça c'est le backstory. Dernière affaire, le match devait être Money Inc. contre les Nasty Boys.
Ok.
Mais vu qu'Hogan revenait, parce qu'il était en feud depuis octobre avec eux autres, mais vu qu'Hogan revenait, ils ont changé le booking. Puis les Nasty Boys, ben ils ont même pas été sur le show.
Donc il se fait attaquer par les heels, il réussit à clear le ring en faisant son entrée. Donc tu sais déjà
qui Hogan.
Ouais, Hogan. Donc déjà qui est over.
Il y a eu un gros pop là.
Et ben c'est le plus gros pop de la soirée. Pourquoi Beefcake? Ben là j'ai eu la réponse. Pourquoi il portait un masque laid?
Oui.
Tu m'as écrit. tu m'as dit. Moi je me pose des questions, pas tes réponses si je cherche pas. Beaucoup de respect pour Hogan d'avoir compétitionné dans le ring avec la face de même. Même s'ils l'ont vraiment protégé, il a pris aucun bump, Puis DiBiase et IRS quittent le ring, mais Earl Hebner dit que s'ils reviennent pas, ils perdent le titre.
Exact.
Tout ça pour protéger Hogan. Pénible comme match. Jimmy Hart retourne sa veste. Il y a une veste rayée d'arbitre. Personne comprend le finish. Les deux champions sont disqualifiés. Money Incorporated. Shit finish.
Ouais, mais attends une minute. Là. Ce que tu comptes pas, c'est que DiBiase et IRS, à un moment donné, ils ont enlevé le masque à Beefcake.
Ouais.
Et moi, j'ai adoré Bobby Nunn. Je veux pas voir cette laide face-là. Puis pourtant, sa face, ça faisait 2-3 ans qu'elle était reconstruite. Ouais. Là. Mais donc, il enlève et il y a un ref bump, il frappe le ref avec la valise, il frappe Hogan ou Beefcake avec la valise, puis là, finalement, Hogan renverse tout ça, puis avec le masque, il frappe les deux, parce que c'est un masque en titanium, et là, ben, vu que l'arbitre est knocké, Jimmy Hart renverse sa veste, il y a une veste stripé d'arbitre, et il fait, il y a les deux pins, chacun des deux, Big Fake et Hogan font des pins en même temps. Il fait 1-2-3 en même temps, sauf que là, Danny Davis rentre. Danny Davis.
Heel.
Ben, il a longtemps été heel et tout ça avec la Hart Foundation. Bon, ben, il vient, puis là, il dit ce qui s'est passé à Hebner. Puis là, ben, Hogan et Beefcake se font disqualifier dans
perte de temps.
Ben, on voulait pas leur donner les belts par équipe et on voulait protéger les champions en même temps. Donc,
perte de temps.
Voilà. Et là, à la fin du match, ben, il ouvre la valise, il y avait une brique.
Ouais.
Et il y avait de l'argent. Puis là, il commence à distribuer l'argent. Puis là, t'as Todd Pickens Gill,
ouais,
qui s'en va voir Natalie Cole.
Moi, je savais pas c'était qui, ça valait d'être une vedette, là, juste de
Natalie
sa prestance.
Cole, c'est la fille de Nat King Cole. Un des plus grands chanteurs black de l'histoire.
Ben, je sais pas c'est qui paraît.
Tu feras des recherches.
C'est quoi, Natalie Cole?
Mais son père est encore plus connu, Nat King Cole.
Nat.
Espouse King.
King.
Espouse Cole, Adam Cole.
Okay.
Et puis, fait que sa fille était là, chanteuse elle aussi, évidemment. Et puis, il dit, peux-tu croire que c'était de la vraie argent? Puis,
ouais.
Pettengill, il était en feu.
Ah, il était bon, même.
Elle a dit, je le sais pas, mais en tout cas, j'ai bien du fun.
Ouais, c'était bon, ça.
C'était vraiment drôle.
OK, après ça, la promo de Mr.
18 minutes 27.
Ah, moi, j'ai mis 1 sur 5.
C'est long, 2 pour Meltzer.
Ouais. J'ai pas de match à 3. Promo de Mr. Perfect. Le gars était
fait
même.
À la maison, attendez-vous pas à un bon match.
Non.
Il y en a pas.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Promo de Mr. Perfect. Le gars, ouais, il avait de la misère à faire à cut sa promo, là. Une chance que Mean Gene était là, puis
Mean Gene. Habituellement, Perfect était meilleur que ça.
Mais je te parle là.
Oui, c'est juste.
Puis une chance que Mean Gene était là, puis Mean Gene a été exceptionnel tout le show.
Ah, Mean Gene, il était débile. Ouais.
C'est fou comment c'est Pettengill, puis Mean Gene, puis Heenan.
Le boot au complet.
Les stars du show. Alex Luger, face à Mr. Perfect. Luger, il arrive avec les 4 dames en bikini, le narcissique Alex Luger.
Lui, là, il venait d'arriver, le Royal Rumble 93, là, parce que Luger, Vince avait été le chercher pour sa compagnie de bodybuilder, de culturiste, et qui avait pas marché. Puis là, ben, il l'a amené dans le show, mais il l'a amené en heel. Là, c'était avant le Lex Express, puis sa rivalité avec Yokozuna.
Il est dans le ring avec les 4 miroirs, qu'il y a de la fumée, il pose. Bleh. Ils ont mis toute
C'était heel.
Oui, mais il n'y avait pas le charisme pour cette entrée-là.
Il n'y avait pas le charisme pour jouer la gimmick.
C'est ça. C'est juste ça. La tune de Mr. Perfect, là, à chaque fois que je l'entends, là, dès que je l'entends, je vois Mr. Perfect lancer le ballon de football puis l'attraper.
Moi, le nombre de fois que j'ai pitché ma gomme dans les airs, j'ai frappé. Là.
Le match qui attire. Non, pas plus en 2020. Le match qui attire, non, qui attirait le plus mon attention, tu sais, sur papier. Là.
Ouais.
J'avais vraiment hâte de voir le match, puis le match était shit. Moi, je pensais m'en sortir avec ce match-là, c'est ça que j'ai écrit. J'ai écrit nope, 1 sur 5.
Pin avec Luger a battu Perfect, mais attends, Perfect avait les pieds d'un corde.
Je sais.
Puis quand même, l'arbitre l'a pas vu. Donc, c'est une autre façon de protéger Perfect. Il y a eu beaucoup de ref bombs, beaucoup de façons de protéger.
Il y a presque pas eu de bon finish real.
10 minutes 56, Meltzer avait donné. Une étoile et quart. Après le match, Mr. Perfect attaque Luger backstage. Shawn Michaels était là, tout bonnement. Donc, lui, il est venu aider Luger parce que les heels se tiennent ensemble. Et ça a parti une feud entre lui et Mr. Perfect par la suite. Par contre, il a donné un sale coup de poubelle T'as-tu vu le premier coup de poubelle backstage qu'il donne?
Ouais.
Écoute, il y avait pas de retenue là-dedans, ben. Dire. Là, c'est une poubelle de genre Rubbermaid.
Ouais, ouais.
Mais ça, vraiment, ça a super bien looké. Je pense que c'était le plus beau move, inclus en le match.
Giant Gonzalez.
T'as-tu vu, je fais une parenthèse, t'as-tu vu à un moment donné, je me rappelle plus c'est où, mais je l'ai juste noté, René Goulet, le lutteur québécois qui est décédé il y a pas longtemps, hein? qui était là comme un des agents, c'était souvent un des agents qu'on voyait, puis il était là avec sa toge.
Impossible.
Il était, je me rappelle plus où exactement, mais il y avait des arbitres, des agents.
Il y avait sa toge.
T'avais Goulet en toge romaine.
Ça se peut-tu que ça soit dans le quand ils font le strutter job de Taker?
Ah, c'est là.
Ouais.
C'est là, exactement.
Je me rappelle parce qu'il y avait l'autre Ebneux, le jumeau, qui était là en veston.
Exact.
Avec, ouais, je me rappelle.
Goulet avec sa toge. Ouais, man, t'es un agent. Pourquoi ils t'ont fait porter ça? Oh,
so, Giant Gonzalez face à Undertaker.
Ouais.
JR dit que Gonzalez mesure 8 pieds.
C'était, honnêtement, là, on est en avril 93. Ouais. Le géant Ferré est décédé en janvier 93. La journée que le géant Ferré décède, il y a une conférence de presse à Las Vegas pour promouvoir WrestleMania 9. Et on dit déjà que Giant Gonzalez, c'est The Giant.
C'est fou.
C'est comme si on cherchait ce grand lutteur pour être l'attraction.
Ouais.
Mais ça avait pas marché à WCW, Gonzalez, puis ça pas plus marché.
Ben, écoute, JR dit que c'était une grosse erreur, Giant Gonzalez. Ouais. Il dit aussi que Fonzi, c'était son manager. Le gars qui était le manager de...
Fonzi, Bill Alfonso.
Bill Alfonso.
C'était le manager de RVD.
Oui, exactement.
Et c'était l'arbitre du match?
C'était le gars c'était le handler, excuse-moi, Giant Gonzalez.
Oui.
Puis il dit que Giant Gonzalez, il a tout perdu son argent. Et lui, il trippait ses filles, puis que Fonzi prenait soin de la famille. Il prenait de son salaire pour envoyer à la famille de Gonzalez.
Wow.
Je trouve ça cool de le mentionner.
L'avais-tu reconnu, Fonzi, comme arbitre?
Non, je l'ai pas connu.
Quand dans le match de Dunk, là, il y a un arbitre qui arrive après le match, qui court, il descend l'allée, puis il croise le premier Dunk.
C'est Fonzi?
C'est Fonzi aussi.
C'est fou, j'ai même pas... OK, so, Paul Bearer, là, c'est le real MVP. Il y a pas un, puis je te dis, Pat, il y a pas un manager meilleur que Paul Bearer dans mon livre à moi. C'est dans mon livre, mais dans mon livre à moi, c'est dans mon cœur de fans, là, c'est Paul Bearer. Je l'ai vu, là, puis le show était shit. Ça m'a pris 6 coups l'écouter. Puis j'ai vu Paul Bearer, puis j'ai fait mon cœur avec la fumée verte. L'entrée de Taker était parfaite. Le costume du géant était shit. Le match était shit. Ils ont sorti la serviette en chloroforme, whatever que t'appelles ça.
Ben, un petit linge de chloroforme, là, un peu comme Ace Ventura fait quand il veut essayer de voir la bague du joueur des Dolphins. Là.
Après ça, Taker est out. Encore un finish qui marche pas. Après ça, Gonzalez attaque les arbitres, pose dans le ring. Taker se fait wheel out of the stretcher, puis random, le Patnay, il revient. Il attend Dong, Patnay est debout. On l'a jamais vu Taker set up.
Taker, victoire par disqualification. Parce que,
une chance. Le streak aurait arrêté là. Le streak aurait arrêté avec Giant Gonzalez.
Puis dans le fond, le backstory de ça, c'est Taker, il est en rivalité avec Harvey Whippleman, qui était dans le coin de Giant Gonzalez. Puis avant ça, il avait battu Kamala, qui était aussi managé par Whippleman. C'était un peu ça, la gimmick. 7 minutes 33, 1.25 par Meltzer.
Après ça, on s'en va au footage, amazing footage de Yoko face à Jim Duggan.
Ouais.
Puis la promo d'Hogan, que j'étais comme, mais pourquoi Hogan il est là?
Ben, Hogan il est là parce que c'est la première fois qu'on le voit depuis WrestleMania 8, depuis un an.
Non, mais je parlais de la promo avant le combat
ben, parce qu'il vient challenger, le gagnant.
Je sais, mais.
Mais ça a du sens.
Je sais que ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais moi, quand je l'ai écouté, j'ai fait, mais pourquoi Hogan est là? Quand il a fait sa promo, j'ai fait, OK. Mais mon premier réflexe, c'était, je viens de voir un footage de Yoko Duggan, Yoko Hart, puis là, je vois, Smart Wrestling.
Donc, ça, c'est la finale. Main event, c'est le main event. Bret Hart, qui défend son titre contre Yokozuna. Juste un petit peu de background avant. Bret avait gagné le titre en octobre 92 à Saskatoon. Dans un house show contre Ric Flair, parce que Ric Flair s'en allait, il est parti en février 93 d'ailleurs. Donc Vince voulait lui enlever le titre, puis Vince voulait plus le titre. En tout cas, pas tu sais, c'était durant le scandale des stéroïdes. Ouais. Fait qu'il voulait donner le titre à quelqu'un qui semblait pas être stéroïdes. Et Bret, il pensait qu'il aurait la belt un petit peu plus longtemps.
Mm-hmm.
Et il a appris la veille de WrestleMania qu'il était pour perdre.
Puis les boys étaient pas contents dans le vestiaire.
Ben sûrement pas.
Ben c'est ça que Jared disait. Il disait que le mood était pas bon parce que le mood s'était passé que. Puis j'ai aimé. J'ai pris une note puis je l'ai pas dit tantôt là, mais JR, il voulait pas savoir le finish de Hogan.
Ok.
Fait que tout ce qu'il savait JR du match de Hart puis Yokozuna, c'est que Hogan partait avec le titre.
Ok.
C'est tout ce qu'il savait. Je trouve ça intéressant.
Et là, puis c'est ça. Puis Brett, il avait vu Hogan une couple de mois avant. Puis Hogan, il avait même pas serré la main. Brett explique ça dans son livre. Là, il avait un peu donné d'attitude à Brett. Mais la journée de WrestleMania 9, parce qu'il savait qu'il pognait la belle, ben là, il était, tu sais, tout sourire et tout ça. Puis Brett, dans ce temps-là, lui, il embarque pas dans ces affaires-là. Là. Ça, je lui donnais ça. Et puis, Hogan, il avait dit à Brett, fais-toi-en pas, merci, puis je vais te redonner une chance.
T'sais, il a dit, je vais te redonner ton win.
Je vais te redonner ton win. Et après ça, ben, il a dit qu'il a jamais dit ça. Puis il s'est obstiné entre lui puis Vince par rapport à qui a menti puis qui a dit quoi. Puis finalement, ben, tu sais, il l'a. Ben, on va parler du match, puis je vais revenir avec quelque chose après.
So, j'ai adoré le début du match.
Yokozuna accompagné de Mr. Fuji.
Oui, c'est vraiment important. Comme j'ai dit, smart wrestling.
Ouais.
J'ai adoré le début du match. Quand il utilise la corde pour faire tomber Yoko, j'ai trouvé que c'était tellement smart. Puis qu'après ça, il fait un springboard. Tu sais, quand tu vois Bret Hart faire un springboard, mais là, vu que Yoko était plus gros que lui, toutes les moves dans le ring ont servi à quelque chose.
Ouais.
Il y avait rien de laissé aller. Ça a attiré mon attention. Le finish, Bret Hart, il y a Yoko dans le sharpshooter. Puis Fuji lance la poutre dans la face de Brett, puis après ça, Yoko pin Brett, new champion, et... Mais, vas-y.
Non, j'allais dire, Brett raconte que Yoko a callé le go-home.
Oui, puis Brett était pas content.
Parce que Yoko, il était essoufflé, il était capable de suivre, puis Brett était pas content parce que il y avait beaucoup de bons spots qui auraient amélioré le match, puis en même temps qu'il l'aurait bien fait paraître lui.
Dans la défaite.
C'est pas évident, là, un match comme, tu sais, un gars comme Brett de lutter contre un gars comme Yoko, et puis c'est ça, mais bon, quand il a vu que tout de suite, il prenait le sharpshooter, puis il tombait là-dedans, que ça arriverait pas. Et puis, c'est ça, Yokozuna gagne en fait la ceinture.
Par la suite, Yoko a même pas le temps de prendre la ceinture sur sa main, sur son épaule, là, que Hogan arrive, puis là, le acting d'Hogan, over the top, là.
Il s'envoie Bret Hart,
il s'envoie Yoko, là, il y a les bras dans les baguettes en l'air, là, il sait plus comment vivre. Avant de continuer, j'aurais aimé qu'on laisse le moment à Yokozuna.
C'est un heel, c'est moins payant.
Non, je sais, mais on n'a pas une shot de Yoko avec le titre. Là. On a un seul frame. J'ai regardé un seul frame. Hogan est tout le temps à côté. Il n'y a pas de frame de Yoko tout seul. Puis ça m'a fait chier. Le pop aurait été plus gros de Hogan si le heel est célèbre, tout le monde eut, Hogan y arrive, pop, puis après ça, on comprend mieux pourquoi. Puis c'est ça, là, après ça, c'est quoi? Fuji challenge Hogan. Puis Hogan accepte le challenge.
En fait, tu vois, Brett, il dit comme...
Ouais, vas-y,
il
vas-y.
Il sel dans les yeux, puis il dit, ah ouais, vas-y.
Ouais.
Et Hogan arrive, il donne un coup à
un clothesline.
Il donne un genre de clothesline à Fuji. Non, il frappe Fuji.
Ouais.
Il donne un
clothesline leg drop, non?
Non, attends une minute. On va faire les choses dans l'ordre. Yokozuna le tient par les bras. Fuji vient pour lui lancer du sel dans les yeux. Il duck, c'est Yokozuna qui pogne le sel. Et là, il frappe Fuji, close line sur Yokozuna. Ensuite, leg drop, 1, 2, 3. Et Hogan, en 22 secondes, remporte le combat. Meltzer avait donné 3 étoiles à Brett et Yoko.
Ouais. Moi, j'avais 3 étoiles pour Brett et Yoko. C'est mon seul 3 étoiles.
Brett disait d'ailleurs que pour lui, ça a été le meilleur match de l'histoire de Yokozuna.
Ben oui, 100%.
Et le match avait duré 8 minutes 55 secondes. Hogan, Yoko, 22 secondes. Et là, dans le fond... Tout ça, là, Hogan a jamais voulu se rebattre contre Brett. Et finalement, il a fallu qu'il job la belt à Yokozuna. Puis qu'ensuite, Yokozuna job la belt à Brett. Donc, Hogan n'a jamais redonné le win.
Allez écouter le podcast. En fait, écoutez, il y a deux podcasts que je vous conseille qui parlent du era de Hogan puis Brett. Sur le podcast de JR sur WrestleMania 9, que je parle depuis le début, et JR a fait un podcast, donc la semaine dernière, si c'est l'extra, où il parle de Bret Hart 1996. Donc, juste avant qu'il quitte pour la WCW, avec toutes les demandes de contrat, tout. Et ce win-là a fait... Parce que Vince a dit à Brett, je vais avoir Hogan, je vais avoir Hogan, je vais avoir Hogan, et Hogan va te donner ton win back. Et Brett, c'était ça qui a fait en sorte qu'il a shaké la main de Vince pour le contrat de 25 ans, c'est-tu ça? Il avait comme
c'était,
le...
C'était,
15 ans?
C'était 20 ans. 1 million par 1 million par année.
Ouais, puis l'affaire qui faisait en sorte que faisait pencher la balance, c'était Hogan va te redonner ton win. Puis c'est ça. Ben allez voir comment que Jarrett l'explique parce que Jarrett était là, là. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que...
Et d'ailleurs, je l'avais ici, ma note. 8 lutteurs sur 22 n'étaient plus à la compagnie.
Wow.
À la fin de l'année. 36%. Donc WrestleMania 9, pas un WrestleMania. J'ai fait quelques recherches là, et je te dirais que tout le monde s'entend pas sur le top 3 des pires WrestleMania, mais WrestleMania 9, il est là tout le temps. Il est là tout le temps, top 5 au maximum, ouais. Top 3 dans la majorité du temps.
Toi, tu te rappelles pas, tu étais supposé faire un quiz?
Moi, j'ai aucun souvenir qu'il fallait que je fasse un quiz.
T'as dit au dernier podcast, quand je m'étais trompé sur Adam Cole, t'as dit, ben tu moi, je vais. Moi, je vais
ça, ça fait un mois de ça.
Oui, mais je l'ai pas fait le quiz.
Tu as pas fait de quiz?
Mais non, parce que tu m'as dit, ouais, mais moi, je vais faire un quiz.
Je vais t'improviser un quiz, mon
mais
gars.
Mais non, mais non.
T'as
mais
pas
non.
Idée.
Regarde, time out.
Time out.
On se fait un deal?
Je sais pas.
À la fin du Real Antipode.
De la semaine prochaine.
De la semaine prochaine, là, après l'extra, on oui. Fera le quiz.
Je te fais un quiz. Ouais. OK, je vais me prendre une note.
Comme ça, les gens auront leur quiz, puis on va pouvoir y penser comme du monde. C'est un bon deal,
un
ça?
Un quiz sur 93.
Sur 93. J'en vais aucune bonne réponse, mais on
93. T'étais-tu né?
Un an.
Ah, t'étais né. Parfait. Puis peut-être que Gab va être réveillé à ce moment-là.
Et oh, puis
qui va pouvoir mettre des effets sonores puis des ding ding ding.
Oui, mais il les a pas là. Fred dans son accident de vélo, il a pas pensé à envoyer des effets sonores à Gab. Gab, il dit vous vous ostinez pas aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a été beaucoup d'accord.
Non, ouais, mais man, si tu dis pas de la marde, je t'ostinerai pas. Sur ce, bye.
Ben, si tu dis pas de niaiserie, je t'astinerai pas moi non plus.
Okay.
Hey, mais pour vrai, où est-ce qu'on peut nous écouter, Kev?
Cube, Stitchers, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, laissez-nous 5 Star Frog Splash, allez acheter le livre de Pat Laprade, la 8e merveille du monde avec le vrai géant et non Giant Gonzalez, André Géant.
Écoutez le podcast sans restriction avec Kevin Raphaël, Jay Dutemple, la Hall of Famer Kim Saint-Pierre.
Mais lundi, à l'extra, il va y avoir quelqu'un d'autre de nice.
Ah, OK. Ouais. Ben, on dira pas c'est qui.
Non.
Mais par contre, avant de se quitter, prochain extra, on fait quoi?
Ah oui, dis-moi.
Dis-moi. Je t'en propose 3 comme à l'habitude.
Ouais.
Starcade 87.
OK. Tu le mets tout le temps puis je le prends pas. Fait qu'il y en a 2.
Ben oui, mais Colin, à un moment donné, c'est moi qui vais le choisir.
Ben non, prendre, si tu m'en proposes 3, puis à un moment donné, je vais le choisir.
Je vais y aller avec Money in the Bank 2011.
Oh.
Okay. Ça, c'est quoi, là?
Ben oui, le punk. Punk ça, là, Cena. C'est la meilleure entrée de l'histoire de la WWE.
OK, ben c'est lui qu'on prend.
Parfait.
Money in the Bank 2011, notre prochain Antipode Extra. On vous remercie d'avoir été là en mon nom et au nom de Kevin Raphaël. On vous dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.